Oui, mais ça arrivera peut-être qu'une seule fois dans sa vie.
Exactement. Je ne sais pas quoi faire. Alors, il y a celle qui s'occupe de la visite eucharistique. Il m'a dit, mais écoute, puisque le père de Bielsis le connaît, demandez-lui.
Alors, qui va y aller?
Je vais demander au père de Bielsis, puisque le père Chauvin m'a dit, je lui dis, prévenez-moi si vous ne pouvez pas y aller. Il ne prévient pas, il ne dit rien. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est vraiment, mais je dépasse complètement, que je n'arrive pas.
C'est un jeune.
Ça va, il est bon. Alors je vous enregistre, mais je vous préviens, il y a le père Geoffroy-Marie à 16h45 que je vais enregistrer aussi. Donc il ne faut pas déborder.
Ah non, mais à 16h45, ce sera fini, moi. Au plus tard, 16h30, c'est fini. Vous me connaissez, hein?
Justement.
D'accord, donc surtout, vous ne débordez pas de 16h30.
Non.
Parce que voilà, après, il faut que j'enregistre l'autre.
Très bien. Et ici aussi? Ah non, à l'auditorium? Non, mais c'est très bien, comme ça
m'évite. Je suis vous, après, j'ai plus qu'à switcher les trucs de l'auditorium.
Non. Bah, merci beaucoup. Rien.
C'est pas du tout. Je n'ose vraiment pas du tout y retourner. Donc là, je n'ose pas.
Non, mais il faut laisser. Hein.
Faut laisser. Oui. Tout le monde me dit, laisse courir et tout ça.
C'est le père Luc qui va. Hein. Bien, on va commencer parce qu'il est 15h et qu'on vient de me donner comme consigne surtout de ne pas dépasser parce qu'il y a un autre enregistrement après. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Je vous lis une prière de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Quand se déchaînent les tempêtes, Tu es, Seigneur, notre force. Nous te louerons, toi le Dieu fort, qui est notre constant secours. Nous restons fermes près de toi, mettant en toi notre confiance, même si la terre est secouée et si la mer devient houleuse. Que les flots enflent et déferlent, que vacillent les montagnes, la joie nous illuminera, la cité de Dieu te rend grâce. En elle, tu as ta demeure, tu préserves ta sainte paix, et un fleuve puissant protège la sublime demeure de Dieu. Les peuples en folie se déchaînent, le pouvoir des États s'effondre. Voici qu'il élève la voix, la terre gronde, secouée. Mais le Seigneur est avec nous, le Seigneur, le Dieu Sabaoth. Tu es pour nous lumière et salut, nous ne saurions avoir peur. Venez tous, venez contempler les prodiges de sa puissance. Toutes les guerres se meurent, la corde de l'arc se détend. Jetez dans le brasier de feu boucliers et armes de guerre. Le Seigneur, le Dieu Sabaoth, nous secourt en toute détresse. Une prière comme celle-là prend d'autant plus d'ampleur quand on sait qu'elle a été écrite par une religieuse qui mourra martyre pendant la guerre. Au mois de février, la dernière fois, nous avions abordé les deux premières vertus cardinales, la justice et la prudence. Et j'avais fait une introduction générale un peu longue pour parler de la vie morale et des actions humaines que nous n'allons pas redonner aujourd'hui. Mais en guise d'introduction, je vais vous redonner trois paragraphes que je vous ai redonnés le mois dernier du catéchisme de l'Église catholique qui vont quand même un peu nous rappeler ce qu'est une vertu cardinale et l'articulation ce qu'est une vertu humaine et l'articulation des quatre vertus cardinales. Ce sera la guise en guise d'introduction. Et après, nous aurons naturellement deux parties, la vertu de force et la vertu de tempérance. Je rappelle pour commencer que tout cet enseignement de l'Église a pour but la fin surnaturelle de l'homme, et que notre fin surnaturelle, c'est le ciel. Donc tout ce qui nous paraît quelquefois très concret, très précis, très peut-être entré dans le détail, ça a pour but la fin surnaturelle de l'homme, qui est notre vie, notre divinisation, la vie au ciel. Premier paragraphe du catéchisme de l'Église catholique que je vous rappelle, c'est le numéro 1803 qui parle de la vertu en général. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il est quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. C'est une citation de Philippiens 4, 8. Et l'article, le paragraphe continue. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien. Elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu, dit Saint Grégoire de Nice. Petit commentaire. Le but qui est visé, c'est le plein déploiement de notre vie chrétienne, qui englobe une dimension morale, ce sont nos actions, et une dimension spirituelle, ce sont nos rapports avec Dieu. La vertu aide une personne à accomplir les actes bons et, dit le catéchisme, à donner le meilleur d'elle-même. Non seulement on évite le mal, on cherche à faire ce qui est bien, et cela ne suffit pas, on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes sera sans doute la plupart du temps ce qu'il y a aussi de plus difficile. Donc la vertu, en nous aidant à donner le meilleur de nous-mêmes, nous aide aussi à faire ce qu'il y a de plus difficile. Et tendre, en faisant ce qu'il y a de plus difficile et en donnant le meilleur de nous-mêmes, tendre vers les plus grandes joies. Le sportif est toujours plus content d'avoir vaincu en faisant des efforts. Nous sommes récompensés de nous être levés à 2 heures du matin et d'avoir grimpé jusqu'en haut de la montagne pour voir le lever du soleil, plus que celui qui reste dans son lit et qui attend à 11 heures du matin que le soleil soit déjà levé. Ça correspond à ce que Jésus nous demande. Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La recherche du meilleur de nous-mêmes. Deuxième paragraphe. Le paragraphe 1804. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises, elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons, elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Là encore quelques remarques. Ce sont des dispositions fermes et stables, quelque chose de solide qui est enraciné. Donc un acte bon que j'ai fait une fois en passant n'est pas une vertu. Elle ne m'a rien enraciné. C'est la répétition des actes bons qui vont me procurer une stabilité et une attitude ferme. Plus je les fais, plus je les reproduis, plus ils me deviennent faciles à faire. Et l'un des buts, c'est aussi d'y trouver sa joie. Autrement dit, il y aurait une espèce de vie vertueuse qui serait vécue par la contrainte, qui ne me donnerait pas la joie, et qui finalement ne serait pas si vertueuse que ça, parce que je le ferais plus par contrainte que pour la recherche du bien dans lequel je trouverais ma joie. Et il est précisé que ces vertus sont humainement acquises. Elles ne sont pas innées. D'où le rôle des parents d'éducateurs. Il est précisé que ces vertus s'adressent à l'intelligence et à la volonté. L'intelligence, elle doit appréhender le vrai, et la volonté, elle doit faire le bien. Et donc, il appartient aux parents d'indiquer le plus clairement possible à l'enfant où est la vérité et où est le bien. Et ça doit être plus facile à faire pour un chrétien qui sait sans risque d'erreur où est la vérité, puisque Jésus dit « Moi, je suis la vérité », donc la vérité est une personne. Plus je m'avancerai, plus je rentrerai en communion avec cette personne, plus je l'écouterai, plus je serai dans la vérité. Et l'Évangile nous dit « Dieu seul est bon ». La bonté, c'est Dieu. Alors, ça n'est pas forcément facile à faire, mais le discernement, pour une part, est déjà fait de ce que des parents doivent essayer de transmettre à leurs enfants. Il y a des mauvaises habitudes, ce sont des gestes mauvais que j'ai répétés, et il y a des bonnes habitudes. Alors, quelquefois, dans notre vie spirituelle, on regrette de faire les choses un peu par habitude. Bien sûr, c'est toujours un peu dommage. Mais je préfère qu'on soit tenu par une bonne habitude que tenu par une mauvaise habitude. Et les bonnes habitudes, c'est quand même un rempart pour notre propre faiblesse. À certains moments, parce que je suis fatigué, parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai un peu la flemme, si je suis tenu par une bonne habitude, eh bien, c'est quand même cette bonne habitude qui va me maintenir dans le bien. Troisième paragraphe, le 1805, où il rappelle ce qu'est une vertu cardinale. Cardinale vient du mot latin cardinis, qui signifie la charnière d'une porte, le gond autour duquel elle pivote. Quatre vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle cardinales. Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'Écriture. Et première citation du père Tancret que je vous avais beaucoup cité la dernière fois, j'avais en main un vieux manuel de 1925 et on vient de me passer un exemplaire réédité, celui que je vous cite en permanence, précis de théologie ascétique et mystique du père Tancret. Vous savez, ce livre que je vais encore vous citer abondamment aujourd'hui. Voilà comment il articule les quatre vertus entre elles. Nous avons besoin tout d'abord de choisir des moyens nécessaires ou utiles pour l'obtention de notre fin surnaturelle. C'est le rôle de la prudence. Il y a des moyens qui sont meilleurs que d'autres, des moyens qui sont mauvais, donc j'évite les mauvais et je cherche à prendre les meilleurs. Il nous faut respecter les droits d'autrui. C'est ce qui fait la justice. Vous voyez, c'est une vue ouverte. Ce n'est pas moi, mon comportement, les autres, je ferme les yeux, il n'existe pas. Si j'écrase les autres, je ne serai jamais vertueux. La justice, ce sont mes rapports avec les autres. Pour défendre notre personne et nos biens, donc il y a quelque chose de légitime, je peux choisir, moi, de vivre la pauvreté, mais personne n'a le droit de me supprimer tous les biens sous prétexte que les biens seraient une mauvaise chose. Pour défendre notre personne et nos biens contre les dangers qui nous menacent, et cela sans peur comme sans violence, nous avons besoin de la force. Pour user des biens de ce monde et des plaisirs sans dépasser la mesure, il nous faut la tempérance. Ainsi donc, la justice règle nos rapports avec le prochain, la force et la tempérance nos rapports avec nous-mêmes. La prudence dirige les trois autres vertus. Une autre façon de dire, par le père Tancret, les vertus cardinales perfectionnent toutes nos facultés morales, l'intelligence est réglée par la prudence, la volonté par la justice, l'appétit irascible par la force, l'appétit concupiscible par la tempérance. Voilà, ça c'est la fin de l'introduction. Donc, grand 1, la vertu de force. Comme je le fais d'habitude, j'ai été consulter le petit Robert d'abord et un dictionnaire de philosophie. Le petit Robert donne quatre sens principaux au mot force. La force d'une personne au sens physique, l'influence que peut avoir un groupe au sens de pouvoir, de puissance, la force de contraindre quelqu'un et une force qui pousse à agir. Il se trouve qu'aucun de ces quatre sens n'est celui dont nous voulons parler aujourd'hui pour la vertu de force. Et c'est sous un autre mot qu'on trouve ce qui nous intéresse, c'est au mot courage. Il y a deux sens au mot courage. Premièrement, une force morale, disposition du cœur. Deuxièmement, ardeur, énergie dans une entreprise. Il y a trois sens. Et troisièmement, fermeté devant le danger et la souffrance. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler. Il y a un sens du mot force qui n'est pas du tout celui qui nous intéresse, c'est la force purement physique. Parce qu'à ce moment-là, c'est la loi du plus fort. Celui qui peut tuer tous les autres, il est le plus fort, et voilà. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a un psaume qui dit « Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut. » Et j'ai trouvé la même chose dans le dictionnaire de philosophie. Au mot « force », je n'ai pas trouvé le sens que je voulais. Et c'est au mot courage que nous trouvons la définition, force d'âme de celui qui affronte le danger sans crainte ou supporte la souffrance sans se plaindre. Alors, dans ce grand 1, premièrement, la force contre le mal. Petit a, ce qu'est la force ? Le catéchisme de l'Église catholique la définit ainsi. La force est une vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Voilà, je suis décidé, je suis fort, je suis ferme et je suis persévérant dans la recherche de ce bien. C'est-à-dire qu'un velléitaire qui met en route et qui ne fait rien, qui arrête, ça n'est pas la vertu de force. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Voilà, la persévérance et cette force intérieure jusque renoncer à ma vie, parce que le motif pour lequel je renonce à ma vie me paraît plus important que ma vie elle-même. Et ça, c'est la vertu de force. Et je vous avais dit la dernière fois que le pape Jean-Paul Ier, lorsqu'il a été élu, avait annoncé une catéchèse sur les vertus. Et vous savez qu'il a été pape 33 jours. Il a donc eu le temps de parler des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et il n'a pas parlé des vertus cardinales. Jean-Paul II étant élu, il a dit, première audience, mon prédécesseur avait annoncé ça, il n'a pas eu le temps de le faire, et bien moi je me sens un peu comme un devoir moral d'accomplir son testament, et je vais parler des quatre vertus cardinales. Et je vous l'avais cité déjà la dernière fois, je vous cite maintenant Jean-Paul II à propos de la vertu de force. La vertu de force impose toujours de surmonter la faiblesse humaine et surtout la peur. En effet, l'homme par nature craint spontanément le danger, les ennuis, les souffrances. C'est pourquoi les hommes courageux, il faut les chercher non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les salles d'un hôpital ou sur un lit de douleur. On pouvait souvent rencontrer de tels hommes dans les camps de concentration ou dans les centres de déportation. Ils étaient certainement d'authentiques héros. Ce qui est grave, ça n'est pas d'avoir peur. Dès qu'on est un peu conscient de la réalité, on a peur. Un bébé n'a pas peur. Un petit enfant n'a pas peur parce qu'il n'est pas conscient du danger. Donc ce qui est grave, ce n'est pas d'avoir peur, c'est que la peur me paralyse. Et la vertu de force, elle ne me rend pas aveugle sur les dangers, mais elle me renforce intérieurement pour que je surmonte ma peur et que j'accomplisse. Alors ça, c'est l'aspect négatif, être plus fort qu'une peur en face de soi, mais il y a l'aspect positif qui est la persévérance à accomplir mon devoir, la recherche de ce qui est bien. Et comme le démon n'aime pas que nous nous accomplissions en faisant ce qui est bien, le démon en permanence cherche à nous dérouter. Je dis en permanence, c'est vrai qu'il peut nous embêter dans le quotidien, je pense qu'à l'échelle d'une vie, ou dans certaines situations de vie, peut-être je vous l'avais déjà dit, le démon va concentrer ses tentations à certains moments de notre vie. Quand je suis dans la fange, complètement plongé dans le péché, c'est très bien, il ne s'occupe pas de moi, j'y suis. Je veux en sortir. Là, il va m'embêter. Là, il va prendre les moyens pour m'y faire replonger, pour me décourager. Tu as essayé 10 fois, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas réussi, ce n'est pas maintenant que tu vas réussir, et puis tu prétends abandonner tous ces plaisirs auxquels tu as goûté, toutes ces facilités. Bon, donc il va accentuer. Puis je sors de cet état mauvais et j'entre dans une espèce de médiocrité, mais qui est meilleure que l'état précédent. Et cette médiocrité lui convient parfaitement. Donc il va me laisser tranquille. Et si je cherche à franchir encore une étape supplémentaire, là il va à nouveau accentuer ses tentations. Mais voilà, pour m'empêcher de sortir d'un état, soit pour mon quotidien, je recherche le bien, et la tentation, c'est de me présenter un mal comme un bien. Saint Paul dit, le démon est capable de se déguiser en ange de lumière. Il s'appelle le séducteur. S'il n'était pas séduisant, je ne l'écouterais pas. Il ne dit pas à Adam et Ève, Dieu a raison, si vous en mangez, vous mourrez. Il dit, Dieu est un menteur. Ce n'est pas vrai que vous mourrez, c'est très intéressant de devenir comme Dieu, mais Dieu veut garder le monopole, donc il ne veut pas que vous deveniez comme des dieux. Et quand il tend le fruit, il dit, regardez, ce fruit a l'air bon à manger. S'il le tend en disant, il est pourri, il y a un ver dedans, vous allez être malade, on ne mange pas. Sauf si je suis vicieux et que je recherche le mal pour le mal, la plupart du temps, chaque tentation à laquelle je vais succomber, c'est parce que je recherche un bien réel mais détourné, ou que je crois être un bien que je veux satisfaire. Donc ça, c'est l'action du démon. Et la vertu de force, elle me donne de résister à la tentation. Le psalmiste parle de celui qui bouche ses oreilles aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Et je pense que rien que cette phrase, c'est un programme pour nous, parce qu'on vit dans un monde qui est ce qu'il est, qui a des très, très belles choses, et qui a aussi une pollution. Je ne parle pas de la pollution atmosphérique, mais je ne suis pas garanti quand je me promène dans la rue, partout où se posent mes yeux, que tout ce que je vais voir est édifiant. Je ne suis pas garanti que tout ce que je vais entendre à la radio, dans le métro, partout, sera édifiant. Et donc, le sage, c'est celui qui bouche ses oreilles aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Et la vertu de force me donne de persévérer dans ce combat. Non seulement je résiste à la tentation, mais je vais détourner mon chemin pour ne pas me trouver dans une situation où je risque d'être en tentation. Ça, c'est l'alliance entre la force et la prudence. Et Il y a des combats de toute façon qu'on aura à mener parce que le mal sera devant nous. Mais je n'ai pas, moi, allé au-devant des tentations sous prétexte que je suis fort et que je vais m'en sortir. Le père Tancret, donc celui-là, cette vertu qu'on appelle force d'âme, force de caractère ou virilité chrétienne, est une vertu morale surnaturelle. Donc je ne puise pas dans ma nature, je vous rappelle que la prochaine fois on parlera nature et grâce. Mais ça ne m'est pas naturel, c'est surnaturel, donc un don de Dieu. Qui affermit l'âme pour la poursuite du bien difficile sans se laisser ébranler par la peur, pas même la crainte de la mort. Son objet est de réprimer les impressions de la crainte qui tend à paralyser nos efforts vers le bien et de modérer l'audace qui sans elle deviendrait facilement de la témérité. Moi, j'aime beaucoup cet équilibre. J'avais lu dans un livre, je ne sais plus qui, pour crâner devant son frère, fume une cigarette devant des caisses de dynamite. Tu vois, moi, je n'ai pas peur du danger. Ce n'est pas du courage, c'est de la bêtise. Voilà. La différence entre le courage et la témérité. Je ne vais pas au-devant des problèmes, peut-être quelquefois il faut, mais en tout cas, quand le danger est là, je demande à Dieu la grâce de pouvoir l'affronter. Ces actes, dit-il, se ramènent à deux principaux, entreprendre et endurer. Le velléitaire, il pense bien, mais il ne fait rien. Donc j'entreprends et je dure. La force consiste tout d'abord à entreprendre et exécuter des choses difficiles. Il y a en effet sur le chemin de la vertu, alors les choses faciles, je suis capable de les faire, je n'ai pas besoin de la vertu de force. Je ne pars pas de zéro. Nous avons des qualités que je mets en route et qu'avec la persévérance, qui peuvent se renforcer et avec l'aide de Dieu devenir des vertus. Il y a en effet sur le chemin de la vertu et de la perfection des obstacles nombreux, difficiles à vaincre, sans cesse renaissants. Il faut n'en avoir pas peur, aller même au-devant d'eux, faire courageusement l'effort nécessaire pour les surmonter. C'est le premier acte de la vertu de force. Mais il faut aussi savoir souffrir pour Dieu. Il faut aussi savoir souffrir pour Dieu les épreuves nombreuses et difficiles qu'il nous envoie, les souffrances, les maladies, les railleries, les calomnies dont on est victime. Alors, cette vertu de force, il y a des degrés. Il y a le commençant, et chez le commençant, elle va avoir un aspect un peu négatif. C'est la lutte contre ce qui nous empêche d'accomplir notre devoir. Et il faut passer par cette phase. On n'est pas immédiatement à l'état de faire le bien au sommet. Pour avoir accès au sommet, il faut partir de la base. Ce sont les fatigues et les dangers. Voilà. C'est pas glorieux d'être fatigué. C'est pas glorieux parce que je n'ai rien fait d'extraordinaire aujourd'hui, j'ai simplement fait mon devoir d'État et à la fin de la journée, je suis fatigué. Et on aimerait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Mais ça, c'est notre quotidien. Et si je suis fatigué, je m'assois dans un fauteuil et je ne sais pas qui fera le dîner, je ne sais pas qui va s'occuper des enfants, je ne sais pas qui va faire quoi, mais pas moi parce que je suis fatigué. Et les dangers, on le retrouve sans cesse. Le plus grand danger étant de perdre la vie. C'est peut-être ce dont on a le plus peur. D'où ces actes extraordinaires, ce témoignage extraordinaire des martyrs. Voilà, il y a eu un massacre au Yémen. Je ne sais pas qui, alors j'ai entendu juste la mention de 4 religieuses qui sont mortes il y a 2-3 jours. Le fait de rester dans un pays où il est dangereux d'être chrétien, on peut considérer que leur mort est un martyr. Et Jésus nous dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. C'est-à-dire que dans notre hiérarchie des valeurs, bien sûr que la vie corporelle est un bien immense, c'est le fondement de tous les autres, mais ça n'est pas le plus grand. craignez plutôt ceux qui, en même temps que le corps, peuvent tuer l'âme. Et l'enjeu de mon âme, c'est la vie éternelle. Je sais depuis le péché originel que mon corps ne vivra pas éternellement sur terre. Donc la mort a été introduite. C'est la fin, j'allais dire, naturelle. Alors si elle est violente, on ne fait qu'anticiper ma fin naturelle. Et ce n'est pas bien cette violence. Mais il y a quelque chose de plus grand et de plus grave que ça, ce serait de perdre la vie de l'âme qui reçoit la vie de Dieu et je n'ai plus la vie de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile dimanche dernier avec le fils prodigue, deux fois. Ton frère était mort, il n'est pas mort physiquement puisqu'il est revenu, son âme était morte. La vie de Dieu ne circule plus, il n'est plus fils et il est revenu à la vie. Et il existe des dangers moins grands et donc plus fréquents que celui de perdre la vie. Par exemple, la crainte des railleries ou des critiques. Cela revient à vaincre le respect qu'humain. Le père Tancret. Ce respect qu'humain qui nous porte à négliger notre devoir par peur des jugements défavorables qu'on portera sur nous, des railleries qu'on aura à subir, des menaces prononcées contre nous, des injures et injustices dont on sera la victime. Voilà, ça c'est très concret, on a peut-être tous rencontré ça. Si je dis ça, c'est ce que je pense, mais si je dis ce que je pense, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je vais à contre-courant, donc tout le monde va me tomber dessus. Il constate en effet que l'homme intrépide sur le champ de bataille, intrépide sur le champ de bataille, recule devant ses critiques ou ses menaces. Et combien il importe de former les jeunes gens au mépris du respect qu'humain, à ce mal courage qui sait braver l'opinion publique et suivre ses convictions sans peur comme sans reproche. Il dénonce aussi, parmi ses peurs, la crainte de déplaire à ses amis. Et c'est quelque chose que je vois relativement souvent. J'ai un ami, mais j'ose pas lui dire que là, il fait fausse route, j'ai peur qu'il le prenne mal. Sous-entendu, s'il le prend mal, est-ce que je ne vais pas perdre un ami? Mais si ce n'est pas précisément de mon ami que j'attends qu'il me dise la vérité quand je pars dans le mur, mais je comprends, hein, voilà, c'est pas agréable à entendre. Bon. Elle est parfois plus redoutable que celle d'encourir la vengeance de ses ennemis. C'est vrai. Et cependant, il faut se souvenir qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, que ceux qui nous empêchent de faire intégralement notre devoir ne sont que de faux amis, et qu'à vouloir leur plaire, on perdrait l'estime et l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je veux gagner? C'est saint Paul qui parle. Est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Si je voulais encore plaire à des hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ. À plus forte raison, ne faut-il pas sacrifier son devoir au désir d'une vaine popularité? Les applaudissements des hommes passent, il n'y a de durable, il n'y a de vraiment digne de nous que l'approbation de Dieu, le juge infaillible. Et je me mets dans le lot, mais trop souvent, notre comportement est déterminé par ce que les autres vont penser de moi plutôt que ce que Dieu va penser de moi. Et j'agis ou je n'agis pas en fonction des autres. Concluons donc avec saint Paul que la gloire à rechercher, c'est uniquement celle qui vient de la fidélité à Dieu et au devoir. Celui donc qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc ça, c'était le premier degré pour les commençants, ce que lui, il appelle les commençants. Deuxième degré, les âmes avancées pratiquent le côté positif de la vertu de force en s'efforçant d'imiter la force d'âme dont Jésus nous a donné l'exemple pendant sa vie. Alors, je vais donner juste un exemple. Il donne des exemples de force d'âme de Jésus durant tout l'évangile, donc son enfance, sa vie publique, sa passion. Au moment de la passion, Jésus est souffleté. Et il s'étonne. si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est, mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Et il n'a pas d'autre réaction que cette demande de justice. Donne-moi ce que je dois recevoir, mais ne me donne pas ce que je ne dois pas recevoir. Alors, on peut penser que Jésus dit ça parce qu'il est réduit à l'impuissance et qu'il ne va pas plus loin parce qu'il n'ose pas ou parce qu'il est attaché. Il dit, la force physique, si je la voulais, je pourrais très bien demander à mon père d'envoyer des légions d'anges qui viendraient me secourir. Et la force physique, si je ne l'ai pas dans mes bras parce que vous m'avez attaché, je l'ai autour de moi parce que mon père peut la mettre à ma disposition. Mais cette force physique n'a aucun intérêt. Et quand plus tard Jésus dira, voilà, cette remarque, il l'a fait sans aucune amertume, en continuant à aimer ceux qui le tiennent, ceux qui le giflent, ceux qui se moquent de lui, et en étant l'instant d'après prêt à donner sa vie pour eux. Donc, avec une force intérieure, Jésus fait cette remarque sans aucune colère, sans aucune violence, non pas parce qu'il en est empêché, mais parce qu'il n'y a que cette force intérieure qui l'anime. Et quand Jésus a dit avant dans son ministère public, quand on vous frappe la joue droite, tendez l'autre joue. Alors, entre enfants, c'est épouvantable. Parce que celui qui commence à taper, ah, tu ne veux pas te battre, hein, t'es un lâche, t'as peur. Et donc, ça m'encourage, moi, à taper encore plus fort. Mais celui qui dit, ou qui dit pas, mais qui aurait la force intérieure de dire, moi, ça ne m'intéresse pas d'entrer dans cet engrenage de la violence. Je suis finalement, je sais très bien, parce que j'ai fait du judo, du karaté, que je suis plus fort que toi, que je peux te casser la figure en 3 secondes. Et j'aurais prouvé quoi ? J'aurais prouvé quoi ? Tandis que là, tu es en train de me traiter de lâche, alors que moi, je veux me situer à un autre niveau. Cette force physique ne m'intéresse pas. S'il faut, je suis capable de me défendre, de défendre mon pays, tout ce que vous voulez, mais en l'occurrence, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il y a une force intérieure qui est la vertu de force. D'encaisser sans répondre, non pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas. Parce que ça n'est pas la solution. Mais vous comprenez que en faisant ça, Jésus ne pousse pas à la lâcheté. Il ne pousse pas à la démission. Il dit, ce que je vais vous proposer là, c'est peut-être les exigences parmi les plus difficiles de l'évangile. Je sais très bien que vous n'en êtes pas capable. Mais si je vous les demande, c'est que je vous en donnerai la force. Il y a le niveau de humain, des rapports blessés par le péché, et notre tentation, c'est de riposter à ce niveau-là. Alors que Jésus nous demande de, pas par nos propres forces, mais par les forces qu'il nous donne, de nous mettre à un autre niveau, dont on peut penser que c'est un niveau supérieur, puisqu'il est fait avec l'aide de Dieu, avec ce risque de courir le risque d'être incompris, parce que je ne suis pas au même niveau. Je sais que mon niveau, c'est celui qui vaincra le mal par le bien, et il n'est pas reçu par le monde. Donc ma tentation, puisque j'ai essayé ce niveau supérieur et qu'il n'est pas compris, je vais me mettre au niveau des autres. Et il faut persévérer à essayer de rester à ce niveau, en haut. Troisième degré, les âmes parfaites entretiennent cette disposition généreuse de s'immoler pour Dieu et de subir ce martyr à petit feu qui consiste dans un effort sans cesse renouvelé de tout faire pour Dieu, de tout souffrir pour sa gloire. Je crois que c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui dit, il y a deux martyrs, il y a le coup d'épée qui vous tranche la tête d'un seul coup, et il y a le martyr quotidien des petits coups d'épingle. Saint Augustin explique que la fermeté chrétienne ne consiste pas seulement à faire ce qui est bon, mais aussi à supporter ce qui est mauvais. Et il y a une espèce de, pour se protéger de ce qui est mauvais, de fuite du monde, qui ne serait pas du tout la vertu de force, mais au contraire la fuite du monde. Quand Jésus dit la veille de sa mort, je ne vous retire pas du monde, Je demande seulement à Dieu de vous préserver du mauvais. Il sait très bien, il connaît très bien le monde dans lequel il nous envoie. Et je vous envoie là parce que là, vous devez être le ferment dans la pâte et le sel de la terre. Et si, quand je vous envoie là, vous vous fuyez, eh bien alors vous avez fui le combat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vocations légitimes. Il y en a que le Seigneur appelle à se mettre complètement à part pour être dans le monde une force de combat spirituel par la prière. Et cela, la vertu de force, il l'applique en persévérant pendant 70 ans dans une vie réglée. Vous savez, le 1er janvier, vous aurez les mêmes horaires que le 31 décembre. Et cette persévérance dans le quotidien. Ceux qui paraissent, c'est toujours saint Augustin, ceux qui paraissent fervents pour de bonnes actions, mais ne peuvent ni ne veulent tolérer des souffrances imminentes, sont des faibles. Je me souviens, c'est une confidence, quand j'étais en troisième ou quatrième, j'avais du latin à l'école et j'aimais pas beaucoup le latin. Et donc ça me barbait et je l'avais évidemment gardé pour la fin. Donc quand c'était très très tard, maintenant j'aurais dû le faire plus tôt, mais à 10h du soir j'avais plus envie de faire mon latin, je me disais maintenant je vais faire ma prière. C'est de la fuite, voilà. C'est pas glorieux de dire il faut être courageux pour faire du latin, mais il faut de la force pour faire ce que je dois faire, c'est tout. Eh bien, quand à 10h du soir, parce que je ne l'ai pas fait avant, je dis je vais faire ma prière, c'est pas ce qui m'est demandé. Petit C, le petit B, c'était les degrés de la vertu de force. Petit C, les vertus alliées de la force. Je trouve très intéressant toute cette ramification humaine des passions qui se fortifient ou qui se gênent les unes les autres et de voir comment il faut élaguer lesquelles il faut développer. À la vertu de force se rattachent 4 vertus, 2 qui nous aident à faire les choses difficiles, à savoir la magnanimité et la magnificence, 2 qui nous aident à bien souffrir, la patience et la constance. Bon, je vais peut-être... je vais un peu sauter parce que... Après, je voudrais quand même aborder la vertu de tempérance. Je dis juste sur la patience et la constance. La patience est une vertu chrétienne qui nous fait supporter avec égalité d'âme, par amour pour Dieu et en union avec Jésus-Christ, les souffrances physiques ou morales. La constance dans l'effort consiste à lutter et à souffrir jusqu'au bout sans succomber à la lassitude, au découragement ou à la mollesse. Quand il emploie le mot souffrir, c'est un peu large. On pense tout de suite à souffrance physique, ça y est, je vais me faire encorner par la vache comme Félicité Perpétue hier. Non, ce n'est pas forcément cette extrémité-là. Il y a un effort qui me demande de la peine. Le sportif, à force de s'entraîner, souffre dans son corps, mais ce n'est pas le martyr. Et quand je suis découragé parce qu'il faut que je recommence une fois de plus, c'est en ce sens-là que cet effort à reprendre encore une fois, c'est ça qu'il appelle, au sens large, la souffrance. L'expérience montre en effet qu'après des efforts réitérés, on se fatigue de faire le bien, on s'ennuie d'avoir toujours à tendre sa volonté. Et cependant, la vertu n'est pas solide tant qu'elle n'a pas la sanction du temps. Ce sentiment de lassitude produit souvent le découragement et la mollesse. Pour réagir contre cette faiblesse, il faut d'abord se souvenir que la persévérance est un don de Dieu qui s'obtient par la prière. Il faut ensuite renouveler ses convictions sur la brièveté de la vie et la durée sans fin de la récompense qui couronnera nos efforts. Saint Paul écrit « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. » Bien sûr, c'est pénible, mais c'est pénible à l'échelle de la durée de notre existence humaine, c'est-à-dire petite. Et ça, je n'oublie jamais le but ultime, c'est la fin dernière. c'est non seulement que j'aille au ciel, mais que mon cœur soit le plus dilaté possible par chaque seconde qui m'est donnée à vivre, pour que lorsque je me présente devant Dieu, il puisse le remplir pour ma plus grande joie éternelle, infiniment plus que si j'ai fait aucun effort. La persévérance jusqu'au bout. C'est par votre constance, dit Jésus, que vous sauverez vos vies. Saint François de Sales, qui a écrit beaucoup de choses sur... il a beaucoup commenté « Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Et on l'appelle le docteur de la douceur. Eh bien, c'était un homme colérique. Et il dit qu'il a mis 30 ans à apprendre à fermer une porte sans la claquer. Voilà. La douceur. Et je peux être colérique, sans doute je le resterai. Mais si en ce moment, à l'instant, j'ai envie de me mettre en colère et que je fais l'effort sur moi pour ne pas le faire, vous ne voyez pas la différence et vous trouvez normal que je sois très gentil. Voilà, ça c'est l'effort. Je serai sans doute toujours colérique ou coléreux. Mais la vertu de force me donne de ne pas l'exprimer pour canaliser ma colère. Moyen d'acquérir ou de perfectionner la vertu de force, d'abord par l'éducation de la volonté. Le secret de notre force réside dans la défiance de nous-mêmes et la confiance absolue en Dieu. Voilà. Je sais ce que je suis. Je suis capable de tout. De toutes les faiblesses, de toutes les lâchetés, de tous les péchés. Je ne suis pas obligé de les faire. Mais je ne peux regarder personne qui serait accusé d'un grand crime en disant « Ah ben celui-là, qu'est-ce qu'il a fait ?» Parce que je suis capable d'en faire autant. Donc, j'ai conscience de ma faiblesse et j'ai surtout conscience de l'infini amour de Dieu pour moi. Si je n'ai que la conscience de ma faiblesse, je vais me jeter dans la Seine. Et le Seigneur... Vous savez, le curé d'Ars avait demandé au Seigneur la grâce de voir son âme, le curé d'Ars. Hein. Et le Seigneur lui accordait cette grâce. Le curé d'Ars l'a regretté toute sa vie. Et je ne peux avoir la lumière, je ne peux avoir la lumière sur la réalité de mon cœur que parce que je suis capable immédiatement de remonter à la certitude de l'amour de Dieu pour moi. Et pourquoi l'Église dit mais ça c'est un péché, ça c'est un péché, et qu'elle ne vous dit pas mais ça c'est pas grave, continuez, c'est pas... Parce que en même temps qu'elle le dit, elle met le remède à notre disposition qui est la miséricorde de Dieu. Donc il y a cette certitude de ma faiblesse et de la grandeur de Dieu pour moi. À cette double disposition, il faut joindre des convictions profondes. Il y a quelqu'un qui a dit, haine, le philosophe, je crois, pour bâtir une cathédrale, il vaut mieux des convictions que des opinions. Voilà. C'est parce que j'ai des certitudes que ces certitudes me mettent en mouvement pour accomplir telle chose. Si c'est simplement je crois que, mais les autres pensent autrement, ça ne me stimule pas beaucoup. Et une petite remarque sur la colère. La colère est une passion. Une passion qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas bien réglée, est une passion mauvaise. Mais une passion qui est canalisée, qui est maîtrisée, est une passion bonne. Et quand on parle de colère, on pense tout de suite dans l'Évangile à la sainte colère de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et il y a quelque temps, j'ai été frappé, c'est que Jésus est plusieurs fois en colère dans l'Évangile. Jésus projeta sur eux un regard de colère. Alors qu'ils n'ont rien fait, mais parce qu'ils voient la dureté de cœur. Et moi, je vous annonce un message, une bonne nouvelle qui ne peut pas rentrer dans votre cœur parce que vous avez le cœur dur. Et Jésus se met en colère, peut-être contre les gens, mais contre cette situation qui empêche que le bien soit reçu. Et pour le moment, je me trouve moi-même impuissant à vous faire passer le bien dans votre cœur. Et ça met Jésus en colère. Et donc ça va redoubler l'ardeur de Jésus pour que son amour soit plus grand, enfin je parle en termes humains, pour revenir sur le terrain, pour essayer de toucher le cœur des pharisiens et des scribes. Le cardinal Danielou dit « La colère, au sens très profondément valable du mot, c'est la réaction d'une sensibilité saine devant les choses qui sont laides, viles, méprisables. » Saint Thomas d'Aquin, « Celui-là pêche, commet un péché, qui ne se met pas en colère quand il le doit. » Donc des parents qui laisseraient tout faire à leurs enfants sans jamais montrer qu'il y a des choses graves, au point que ça enclenche ma colère, ça déclenche ma colère, non pas contre mon enfant, mais contre ce qui vient d'être fait. Et comment trouver, voilà, que cette passion me donne de trouver les mots, les remèdes pour mon enfant. Principe d'éducation, je vous donne ça quand même. Le principe d'éducation des parents pour leurs enfants va consister... L'éducation, ce n'est pas une méthode assimile, faire le bien sans peine. Ce n'est pas vrai. Le mal, je le fais sans peine. Mais le bien, je ne le fais pas sans peine. Le bien demande des efforts. Et celui qui aime, c'est celui qui demande des efforts. Avec cette grande difficulté que j'éprouve moi comme prêtre et que les parents éprouvent comme parents, c'est qu'est-ce que je peux demander à mes enfants qui le font grandir, qui les font grandir, et à partir de quand je mets sur leurs épaules un poids qu'ils ne peuvent plus porter. Et moi, quelquefois, ça me paralyse, puisque Jésus s'en prend violemment aux pharisiens qui mettent sur les épaules des gens un fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. Mais en même temps, si je les laisse là, je ne les stimule pas et je ne les aime pas, je ne leur permets pas de donner le meilleur. Donc il y a cette limite, je les encourage à donner le meilleur, mais je ne les accable pas par une demande trop forte. Et je peux avoir aujourd'hui demandé quelque chose dont je pense qu'ils sont capables de le faire et qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils n'en ont pas pris les moyens, et auquel cas il faut que moi je persévère dans ma demande. Mais voilà, on est à une frontière qui est délicate. Et l'éducation va consister à aider à discerner l'enfant sur ce qu'il doit faire. Les parents ne veulent pas et ne peuvent pas être en permanence à côté de lui pour lui dire ce qu'il doit faire, encore moins être devant lui pour le faire à sa place, mais permettre qu'il y ait des repères généraux suffisamment larges pour que, à chaque circonstance particulière où l'enfant va se trouver, il sache quoi faire. Et non seulement il sache quoi faire, mais qu'il désire faire le bien et qu'il en ait la force. Alors, on sent bien qu'il y a toute une part qui relève des parents, mais il y a ensuite toute une part qui relève de l'enfant lui-même. Les parents doivent dire à leurs enfants, il faut prier parce qu'en priant, vous vous rapprochez de Jésus qui vous donne sa force et vous serez plus fort. Mais après, si l'enfant n'a pas prié, il peut être éduqué par ses parents à voir où est le bien, et peut-être ne pas désirer le faire et peut-être ne pas avoir la force de le faire. Donc tout ne relève pas des parents. Je saute. C'est dommage parce qu'il y avait des choses intéressantes. Vertu de tempérance, grand 2. Notre petit Robert. C'est la modération dans tous les plaisirs des sens. Et le dictionnaire philosophique, qualité consistant à se modérer, en distinguant un usage ordinaire, usé avec mesure des aliments et surtout des boissons alcoolisées, et un usage philosophique, une des quatre vertus cardinales qui consiste à être modéré dans ses désirs et dans la satisfaction de ses tendances. Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1809. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. L'homme est un animal qui a des instincts, mais l'animal n'agit que par instinct. Tandis que chez l'homme, les instincts sont éclairés par l'usage juste qu'il fait de sa raison, et sont canalisées par sa volonté. Sauf que je vous ai dit une fois, je ne sais plus quand, que le péché originel a fait de nous un être déréglé. Donc j'ai toujours ces composantes, mais les supérieurs ne dominent plus forcément les inférieurs. Et donc mes instincts, eh bien, quelquefois, ils partent dans des mauvaises directions ou ils prennent le pas sur ma volonté. Ce qui fait que mon comportement est déréglé. Alors, pour ça, il faut que... Elle assure la vertu de tempérance, la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles. Ses appétits sensibles, c'est la gourmandise, c'est... garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. Bon. Et Jean-Paul II, développant la vertu de tempérance, il fait des remarques générales sur les vertus qu'il applique ensuite à la vertu de tempérance. Quand nous parlons des vertus, non seulement de ces vertus cardinales, mais de toutes et chacune d'elles, nous devons avoir toujours sous les yeux l'homme réel, l'homme concret. La vertu n'est pas quelque chose d'abstrait, détaché de la vie. Au contraire, elle a de profondes racines dans la vie même et elle en jaillit et elle la forme. La vertu a une incidence sur la vie de l'homme, sur ses actions et sur son comportement. Il s'ensuit que dans ces réflexions, nous parlons moins de la vertu que de l'homme qui vit et agit vertueusement. Nous parlons de l'homme prudent, juste, courageux, et enfin aujourd'hui précisément, nous parlons de l'homme tempérant. L'homme est un être de désir, et dans sa vie, il y a des plaisirs. Et heureusement que nous sommes des êtres de désir, parce que Dieu vient combler nos désirs, et que le reproche spirituel qui peut nous être fait, c'est de n'être pas assez des êtres de désir. Quelqu'un faisait un jour un commentaire sur la multiplication des pains. Et la foule a mangé à satiété, et il en est resté 7 ou 12 corbeilles ou 5 corbeilles selon les évangiles et la première ou la deuxième multiplication. Commentaire. Pourquoi il en est resté? Parce que les hommes n'ont pas mangé à la mesure de ce que Dieu a donné. Voilà, Dieu donne plus. Notre faim est arrivée à satiété, donc nous n'avons plus mangé. Et il faut au contraire augmenter notre faim pour épuiser cette réserve de pain. Donc on ne désire pas assez. Et ensuite, il y a des désirs, des plaisirs que la vie nous accorde et qui sont bons et qui sont légitimes et qui sont voulus par Dieu. Quand vous lisez la Genèse chapitre 1 et 2, Dieu vit que cela était bon. C'est bon pour nos yeux, pour nos oreilles, pour eux, voilà. Et que lorsque des époux se donnent l'un à l'autre, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Ce plaisir physique, il est voulu par Dieu et bon. Alors, on a dit quelquefois que peut-être l'Église a été maladroite quelquefois dans sa façon de parler, mais on caricature son message en disant « Pour l'Église, dès qu'il y a du plaisir, il y a du péché. » Non. Ce que l'Église dit, c'est que ce à quoi le Seigneur nous appelle est tellement grand et tellement beau que ça court le risque d'être abîmé. Et donc, elle nous met en garde pour ne pas nous trouver dans une situation où on risque d'abîmer ce que Dieu nous confie. Et que les désirs, c'est très bien, les désirs spirituels, je ne les désire pas assez, mais comme je suis déréglé, il faut que je sache mettre une limite à mes désirs physiques parce que le physique va étouffer le spirituel. Et quand Jésus jeûne, ce n'est pas simplement pour être faible dans son corps, c'est pour nous signifier que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si je jeûne physiquement, c'est pour creuser un désir spirituel, une faim de Dieu. Et donc, j'ai des désirs qui peuvent être déréglés parce que le démon va mettre sous mes yeux quelque chose qu'il va me présenter comme désirable et qui est mauvais. Ou je peux avoir des désirs déréglés parce que je dépasse la juste mesure. Et c'est pareil pour les plaisirs. Mais c'est pas, il faut les modérer et canaliser, mais il faut pas les supprimer parce que Dieu les a voulu comme ça. Je vous lis un passage de Don Louf, qui est l'ancien père abbé du Mont des Cats. La grande affaire de la vie spirituelle, c'est l'unification intérieure. Cette unité nous est progressivement donnée par Dieu. Nous avons pour cela à ne pas nous laisser envahir par tout ce qui n'est pas essentiel. Nous avons quantité de désirs superficiels qui nous encombrent, nous écartèlent. Quête de reconnaissance, ambition, désir de gagner de l'argent, fringale démesurée de consommation et de loisirs. Ces désirs sont des désirs blessés qui doivent être guéris de l'intérieur afin qu'émerge peu à peu en nous un seul et unique vrai désir, celui de Dieu. En effet, dit Saint Jean de la Croix, l'âme qui ne secoue point les soucis et n'éteint point le goût pour les choses, tend à Dieu de la même manière que celui qui tire un chariot en montant une côte. C'est-à-dire, l'âme, elle veut tout avoir. J'ai le désir de Dieu, mais j'ai le désir de tous les biens matériels. Et si je ne suis pas capable de renoncer à certains désirs matériels pourtant légitimes, eh ben j'accède à Dieu en tirant derrière moi une carriole chargée de cailloux, donc j'aurai du mal à atteindre Dieu. Alors, que dit le père Tancré sur la tempérance ? Si la force est nécessaire pour réprimer la crainte, la tempérance ne l'est pas moins pour modérer cet attrait au plaisir qui si facilement nous détourne de Dieu. Le but de cette vertu est donc double, nous détourner de tout plaisir mauvais et néanmoins attirant, et faire en sorte que nous ne tombions pas dans l'excès de la satisfaction des plaisirs, même légitimes. La tempérance est une vertu morale surnaturelle qui modère l'attrait aux plaisirs sensibles, surtout aux plaisirs du goût et du toucher, et le contient dans les limites de l'honnêteté. La tempérance nous fait user du plaisir pour une fin honnête et surnaturelle, et par là même en modère l'usage selon les prescriptions de la raison et de la foi. J'aime beaucoup toutes ces précisions. La raison, c'est l'ordre naturel. Et la foi, c'est l'ordre surnaturel. Donc j'ai un comportement naturel qui n'est pas contredit par la foi, mais la foi apporte une lumière encore plus vive sur ce à quoi naturellement ma raison me porte, ou me porterait si elle n'était pas... si elle était toujours juste. Jean-Paul II, dans son commentaire, le terme même « tempérance » semble se référer d'une certaine manière à ce qui est à l'extérieur de l'homme. En effet, nous disons qu'est tempérant celui qui n'abuse pas des aliments, des boissons, des plaisirs, qui ne boit pas immodérément de l'alcool, qui ne se prive pas de sa conscience en faisant usage de stupéfiants. Cette référence qui a des éléments extérieurs à l'homme a cependant sa base au-dedans de l'homme. C'est comme si, en chacun de nous, il existait un ego supérieur et un ego inférieur. Dans l'ego inférieur s'exprime notre corps et tout ce qui lui appartient, ses besoins, ses désirs, ses passions de nature, principalement sensuelles. La vertu de tempérance garantit à tout homme la domination de l'ego supérieur sur l'ego inférieur. Est-ce là une humiliation de notre corps ou bien un amoindrissement ? Au contraire, cette domination valorise le corps. La vertu de tempérance fait que notre corps et nos sens trouvent la place exacte qui leur revient dans notre être humain. L'homme tempérant est celui qui a la maîtrise de soi-même. Celui chez qui les passions ne l'emportent pas sur la raison, sur la volonté et même sur le cœur. L'homme qui sait se dominer. S'il en est ainsi, nous pouvons nous rendre compte de la valeur fondamentale et radicale de la tempérance. Elle est même directement indispensable pour que l'homme soit pleinement homme. Il suffit de regarder quelqu'un qui, entraîné par ses passions, en devient la victime, renonçant de lui-même à user de sa raison, par exemple un alcoolique, un drogué, pour constater clairement qu'être homme signifie respecter sa propre dignité et donc, entre autres, se laisser guider par la vertu de tempérance. Moi, j'aime bien quand je lis un passage comme ça parce que ça éclaire sur la grandeur de l'homme. Ça projette une lumière sur la cohérence de ce que Dieu veut pour nous. C'est quand Jacques Monod écrit « Du hasard et de la nécessité », c'est pas possible. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Tout est tellement mis en place, se tient tellement les points les uns les autres, tout est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas être le fruit du hasard. Alors, il parle de la gourmandise, il parle de la chasteté. Je saute, non pas que ce ne soit pas important, deux vertus alliées à la tempérance, l'humilité et la douceur. Voilà, l'humilité nous fait prendre conscience de ce que nous sommes en vérité, nous fait nous accepter ce que nous sommes en vérité et nous fait nous aimer ce que nous sommes. Je ne me rêve pas quelqu'un d'autre, je ne me fais pas d'illusions sur ce que je suis, mais ce qui ne veut pas dire que je sois le dernier des derniers, j'ai des qualités, il s'agit de les voir pour en rendre grâce. J'ai aussi des limites, comme tout le monde, puisque je ne suis pas Dieu, et j'ai aussi commis des péchés qui abîment. Mais ça ne sert à rien que je le nie. Et je m'accepte sans me comparer aux autres, pourquoi il a cette qualité que moi je ne l'ai pas. Et j'allais dire, je m'aime comme je suis. La plus humble, c'est la Vierge Marie. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Elle le reconnaît. Tous les âges me diront bienheureuse, mais je n'y suis pour rien, tout est un don de Dieu. L'humilité, dit le curé d'Ars, est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet. Ôtez la chaîne et tous les grains s'en vont, ôtez l'humilité et toutes les vertus disparaissent. On dit de l'humilité que c'est le terreau sur lequel grandissent toutes les autres vertus. Saint Augustin, désires-tu t'élever, commence par t'abaisser. Tu rêves de construire un édifice qui s'élève jusqu'au ciel, établis d'abord le fondement sur l'humilité. Et plus la construction doit être élevée, plus profondes doivent être les fondations. Et deuxième, la douceur. On peut définir la douceur, une vertu morale surnaturelle qui prévient et modère la colère, supporte le prochain malgré ses défauts et le traite avec bénignité. La douceur est une vertu excellente car elle fait régner la paix dans l'âme. Voilà, c'est quand on frappe Jésus sur la joue, peut-être qu'il est le plus doux. Et dernier point dans cette vertu de tempérance, de la mortification. Et je pense que ça fait aussi partie de l'éducation. Il y a une véritable ascèse qu'il faut que les uns et les autres nous acceptions d'intégrer dans notre vie. Alors on peut faire de l'ascèse une peinture caricaturée ou caricaturale. Je renonce à tout, je souffre, je me flagelle. Bon, c'est pas ça l'ascèse. L'ascèse, c'est ce à quoi je consens parce que je pense que c'est bien pour acquérir quelque chose de mieux. Ce sont les renoncements auxquels moi je consens sans que personne m'oblige et auxquels je consens librement. Et j'y trouve ma joie, parce que ça montre que pour l'amour de Dieu, pour l'amour des autres, je suis capable de renoncer à ça, simplement parce que ça nourrit l'amour. Dans le mariage, si l'un et l'autre ne font pas des renoncements, je pense que ça ne peut pas durer. Mais j'y trouve ma joie, puisque ce renoncement nourrit mon amour pour mon mari ou pour ma femme. Donc ce bien le plus précieux qui est entre nous grandit. Donc je suis gagnant, le premier gagnant à accepter ces renoncements. Et cette ascèse, elle est indispensable pour la vie spirituelle. Il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Quand l'Église nous invite à entrer en carême, elle va nous donner tous les ans le même évangile. Toi quand tu pries, toi quand tu jeûnes, toi quand tu fais l'aumône. Ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Voilà, c'est l'ensemble, l'intégralité. Alors, les enfants, il faut les encourager. J'étais dimanche dans une famille, il y a un enfant, et alors on sentait que c'était fait avec beaucoup de paix intérieure. Il a décidé pendant le carême de ne pas manger de bonbons. Simplement, alors il dit ça, mais je n'ai pas trouvé qu'il voulait se vanter. Il dit parce que l'occasion s'est présentée, parce qu'il y avait des bonbons sur la table, il se demandait s'il pouvait en prendre un ou pas, bon. Et alors, sa maman lui rappelle le carême et il dit, oui, sauf une fois où j'en ai mangé. Voilà, mais c'était très simple. Et moi, je trouve très, très bien. Voilà, on l'a éduqué pour dire, il faut accepter de faire un effort. Et il le faisait de façon paisible. Je me rappelle quand j'étais aumônier dans une école, il y avait eu un déplacement de 5 classes qui étaient parties au même endroit. Et j'avais été les visiter. Et au moment du petit déjeuner, j'avais été un peu effaré. J'ai trouvé ça lamentable. Vous aviez bol de cornflakes, bol de 3 ou 4 sortes de bols de cornflakes différents, confiture de machin, de machin, machin, du pain, de la brioche, des biscottes, des machins, du café, du jus d'orange, du... Ils auraient eu du lait, du chocolat et des tartines de pain, ils ne posaient aucune question. Et alors, donc c'était comme ça, puis ils passaient, puis ils servaient. Puis moi, j'étais en bout de chaîne et je regardais. Et il y en a un, je vois, il s'était servi un bol de cornflakes chocolaté. Pourquoi pas, puisqu'il y avait un gros bol. Alors c'était épouvantable parce que quand le gros saladier était vide, les boîtes de rechange étaient là derrière, donc clac, on ouvrait, on remplissait. Donc il a son bol de céréales chocolatées. Et puis, quand il arrive devant moi, il y a encore du chocolat en poudre. Il prend le chocolat en poudre pour mettre dans son bol. J'ai dû regarder d'un drôle d'air, mais je n'ai fait aucun commentaire. Mais peut-être qu'il a vu à mes yeux que j'étais un peu étonné. Il me regarde et me dit, « Ben quoi, j'ai droit ?» Voilà. Alors, c'est vrai qu'il ne m'était pas venu à l'esprit d'inscrire dans les droits de l'homme le droit de mettre du chocolat dans un bol de céréales chocolatées. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que dit saint Paul ? Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Aujourd'hui, tout est permis. Sauf vous, les parents ringards qui allez interdire à vos enfants de faire ça et ça et ça. Mais vous avez une pression telle que, comme tout le monde le fait, vos enfants vont vous tanner jusqu'à ce que vous disiez oui. Alors, tout est permis. Mais tout n'est pas profitable. Alors, c'est évident que tout n'est pas permis. Même si la société le permet, ce n'est pas parce que la société le permet que c'est bon. Mais l'éducation consistera à dire à ce moment-là que tout n'est pas profitable. Et alors, il faut que je retrouve la phrase parce que saint Paul continue. Tout m'est permis, mais tout n'est pas profitable. Je n'ai pas noté la suite. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai moi dominer par rien. Les aliments sont pour le ventre. Et il y a quelque chose supérieur au ventre, et moi je ne me laisserai pas dominer par cette table surabondante. On croirait presque le banquet du festin nuptial au ciel. Non, quand même pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas parce que tout est devant moi et que je peux tout prendre qu'il est bon que je prenne tout. Ça, c'est la tempérance, évidemment. Mais quand tout se présente devant moi, ça veut dire que ma tempérance, elle doit être aidée et soutenue par ma vertu de force pour que je ne dépasse pas les limites. Et que même au-delà de la limite, je dois accepter un renoncement qui peut peut-être me faire quitter la table avec une légère faim, parce que je relativise, parce que moi je ne veux pas me laisser dominer par mon ventre. Bon, pardon, je vous laisse la... J'arrête là. Il reste quelques minutes si vous voulez poser une ou deux questions. J'ai déjà dépassé l'heure. S'il n'y a pas de questions, c'est le plus simple. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, le mois prochain, au mois d'avril, je ne sais plus quand c'est, ce sera une réflexion sur la nature et la grâce. Alors, il est possible qu'on retrouve des choses, mais qui seront présentées autrement. Très bonne fin de carême, bonne marche vers Pâques.